Maintenant, j'aimerais inviter Stéphane Rondeau à lire le deuxième de deux passages que nous allons voir tantôt dans le message. Le premier passage sera dans Psaume 14:3, où il est dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est le passage que David nous dit dans Psaume 14:3. Et Stéphane Rondeau va nous lire la citation de ce passage-là par Paul dans Romains chapitre 3. Il lira de Romains 3, 9 à 24.
Un, deux, voilà. Alors effectivement, je vais vous lire ça dans la version Nouvelle Édition Genève, Romains chapitre 3, versets 9 à 24. Quoi donc? Sommes-nous plus qu'excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Merci Stéphane. Donc c'est un grand privilège pour moi de prêcher ici à Longueuil. Normalement j'aurais été à Saint-Léonard, qui est une église fille de Rosemont. Et c'est le pasteur Benoît Constant qui a été mis à part par l'église maintenant, pas dans l'association en tant que telle, ça viendra, mais l'église a reconnu en lui, ce jeune de 27 ans, leur pasteur, avec un autre ancien qui s'appelle Ovid Gardos. Et moi, j'ai été l'implanteur, coach de Benoît, pendant ces 3 années. Avant cela, j'étais 35 ans à Rosemont comme pasteur là. Et avant ça, ben, j'ai enseigné 6 ans dans les écoles secondaires, l'anglais et le français. J'ai répondu avec joie à l'invitation du pasteur Yannick. Et je vous salue donc au nom de l'Église en implantation, votre Église sœur à Saint-Léonard. Hier soir, on a projeté un film qui s'intitule « La résurrection du Christ » avec Joseph Fiennes, en anglais « Risen ». C'est un excellent film. Il y a des choses romancées, mais assez fidèles quand même au texte biblique. On sort émotionnellement touché par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ à travers les yeux de ce tribun, Clavius, qui découvre Jésus-Christ et qui le voit étant à mi-chemin entre la foi et son incrédulité auparavant. Donc ça, ce détail-là est à revoir, mais l'histoire est très, très engageante. Nous avions livré 15 000 invitations dans la communauté et 40 personnes sont venues, dont 20 nouvelles personnes. Et sur les 20, 5 nous ont laissé des coordonnées pour qu'on puisse les contacter à nouveau et discuter avec eux ce film et qu'est-ce que ça veut dire pour eux. C'est mon avant-dernier message aujourd'hui. Je prêche à Saint-Léonard dimanche prochain et ensuite je tombe en retraite. Après 38 ans de ministère évangélique et 6 ans d'enseignement, ça va être le temps. Quelques petites vacances Et 6 mois ont été prévus par Sharon et moi pour décider d'écouter Dieu et d'entendre son appel à elle et à moi. Il faut qu'on soit unanime. Dieu nous appelle peut-être à faire autre chose, amoindri peut-être, ou au même rythme, on ne sait pas. Dieu doit nous guider dans les 6 prochains mois à travers un temps de prière et de repos. On va habiter à Shefford, on laisse notre appartement en ville et c'est là, sur la montagne, qu'on va méditer la volonté de notre Seigneur. Mais je rends grâce à Dieu et à Jésus-Christ qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, ce message ce matin, selon la série lancée par Pasteur Yannick, c'est le premier de 4 dans une série où on prend un verset chaque fois. Pasteur Yannick nous a consultés, donc Jean-Sébastien Morin, Miguel Richard et moi-même, pour qu'on choisisse 4 versets chaque sur les versets importants pour le salut. Et chacun avait sa liste de 4, et puis on en est venu à décider 4 les plus importants à nos yeux. Donc moi j'ai choisi Romains chapitre 3 et le verset 12, qui est une citation du psaume 14, verset 3. Les deux sont exactement les mêmes. Psaume 14, 3 dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, 12 dit la même chose « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Parce que Paul cite David. Et on pourrait titrer ce premier message « La perdition de l'homme ». Pas très gai pour venir à l'église le dimanche matin. « La corruption totale de l'homme ». Wow, j'aurais mieux fait de rester dans mon lit. C'est la mauvaise nouvelle dans ce qu'on pourrait dire la bonne nouvelle au complet. Il faut commencer avec le diagnostic de Dieu. Celui qui n'est pas malade ou qui ne pense pas qu'il est malade n'ira pas consulter le médecin pour avoir le vrai diagnostic, la vraie guérison. Et vous savez qu'on est pécheur. Vous le sentez, vous le savez en vous-même. Mais nous sommes comme les musulmans. Nous avons tendance à amenuiser cette partie-là. Oh oui, on est imparfait. On va même employer le mot péché, mais regarde tout son péché, puis ça finit là. Dieu va être miséricordieux. Alors nous avons besoin de revisiter cette doctrine si on veut vraiment comprendre l'Évangile, la perdition de l'homme. Est-ce que c'est vrai qu'il est totalement perdu, dans les vapes, dans le brouillard, mort dans ses péchés? Est-ce que c'est vrai qu'il n'a pas de chance s'il passe de l'autre bord tel qu'il est? La bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle si on ne commence pas par la radicalité de la perdition de l'homme. Et ce matin, c'est la mauvaise nouvelle. Les 3 autres rajoutés à cela, c'est la bonne nouvelle au complet. Donc, nous avons dans un contexte davidique d'abord, psaume 14, 3, et je vous invite à regarder avec moi dans psaume 14, 3, qu'on le lise chacun dans sa propre Bible ou son bidule. Psaume 14, et je vais lire les 3 premiers versets. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On dirait que David prend sa guitare, sa lyre, il psalmodie Dieu ailleurs, mais qu'ici, il prend plutôt une toge de théologien dur. C'est une parole dure pour nous ce matin que David nous donne dans un de ses psaumes. 14, 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. J'aime pas ce miroir-là. Tous sont pervertis, un instant. C'est la parole de Dieu pour nous. Recevons-la de sa bouche. Ça vient de la parole inhérente de Dieu, qui ne fait pas d'erreur. Sur quoi est-ce que je base l'inhérence de Dieu? Sur le fait que les prophéties ont été accomplies? Sur le fait qu'on a découvert archéologiquement des artefacts qui sont selon les Écritures? À cause de la longévité de la Bible qui n'a pas pu être détruite à travers toutes ces années-là? Je base ma doctrine de l'inhérence de la Bible sur le témoignage de Jésus-Christ qui a dit dans Jean 10, 35, « Les Écritures ne peuvent être anéanties. Si mon Sauveur, mon Seigneur, en qui j'ai mis toute ma confiance, a une très haute estime des Écritures, je ne peux rien faire de moins que lui. Les Écritures ne peuvent être anéanties, abolies, changées, détruites. Christ avait une entière confiance dans les Écritures qu'il avait, qui étaient l'Ancien Testament, et il a rajouté cette inhérence à ses propres paroles. Donc, si la parole est inhérente, quand il est dit « tous sont égarés, tous sont pervertis », je le prends pour du cash pour moi-même. David se plaint souvent de ses ennemis. Vous le savez, dans les psaumes, souvent il va dire « Absalom » ou bien « Doeg ». Ou bien il va parler de Saül qui le pourchasse, ou d'autres ennemis encore des nations environnantes. Et donc il se sent traqué et il est contre ces hommes violents qui en veulent à lui et ultimement à Dieu. Ici, dans 14:3, il amène tous ces filons de méchanceté puis il les ramène au problème fondamental qui est le cœur de l'homme. Ton cœur, mon cœur. Tous sont égarés. Je suis égaré, tu es égaré. Tous sont pervertis. Même affaire. Il n'en est aucun qui fasse le mal. As-tu bien compris? Pas même un seul, rajoute David. Et que répète Paul aussi. Donc, dans ce psaume 14, David retrace la méchanceté de l'homme envers lui à ce problème fondamental arrivé lors de la chute d'Adam et de Ève, la méchanceté, l'aspect malin, orgueilleux, égoïste qui est entré dans le cœur humain quand il a désobéi à Dieu. Et il commence au verset 1 en décrivant ceux qui sont insensés dans leur cœur parce qu'ils disent qu'il n'y a point de Dieu. L'athée est un imbécile. Celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu déraisonne. Le monde n'a pas beaucoup évolué. Ça fait 3000 ans que ça a été écrit. Il y avait déjà des athées du temps de David. Et celui qui nie l'existence de Dieu est insensé parce qu'on ne devrait jamais oublier le témoignage de Dieu dans l'univers. Tu passes pour un stupide. Oh, tu as des doctorats après ton nom, mais des lettres de doctorat après ton nom, mais l'idée, c'est que tu es un insensé. Quand tu nies ce qu'on voit dans la création. Le mot hébreu pour insensé est nabal. Ça vous dit quelque chose? C'est un mot qui implique une perversité agressive. Et il y a un homme qui s'est fait nommer Nabal. Je ne sais pas ce que ses parents pensaient. Dans 1 Samuel 25, 25, il n'a pas reconnu la bonté de David. Il ne vivait que pour lui-même. Sa femme était une femme sensée, mais lui, Nabal. Et quand il n'a pas reconnu la bonté de David, David allait monter pour le tuer. Mais la femme de Nabal est sortie pour nourrir les troupes de David et dire, s'il vous plaît, patience. Et le lendemain, après qu'il ait passé son ivresse, Nabal a appris de sa femme ce qu'elle avait fait. Il y a eu une sorte de petite crise cardiaque. Là, son cœur est devenu dur comme une pierre. 10 jours plus tard, Dieu l'a frappé. L'homme qui nie la bonté de David ou l'homme qui nie l'existence de Dieu est un insensé, un Nabal, parce qu'il nie clairement ce qui est évident. Il croit qu'il y a un immense effet qu'on voit sans cause. Il nie une autorité morale dans l'univers. Il croit seulement ce qu'on peut prouver physiquement et scientifiquement. mais il prend une chance dramatique, dangereuse, parce qu'après la mort, supposons qu'il n'y a rien, je n'aurai rien perdu de la bonne vie que j'ai vécue avec Dieu. Vraiment, je capote, j'ai eu une bonne vie. Mais si Fernanda, à qui je parlais il y a 3 jours pour l'inviter au film, si elle a tort de croire qu'il n'y a pas de Dieu et de le dire, et qu'elle se réveille après et que c'est son juge, et que la Bible dit vrai qu'il n'y a que 2 endroits et que par défaut nous allons vers l'enfer, elle a tout perdu. C'est un calcul insensé. C'est une personne qui refuse d'être persuadée par les nombreux arguments. Ce n'est pas notre sujet ce matin, mais Dieu existe. Il existe vraiment. Il en a laissé des signes partout. Nous avons tous rencontré des athées qui nient l'existence de Dieu, qui inventent l'évolution pour s'opposer à la création et qui insistent que lorsqu'on meurt, on va 6 pieds sous terre d'Azor. Mes frères et sœurs, nous agissons comme des athées bien des fois. Quand je passe toute une journée, ou 2 ou 3, sans référence à Dieu ou à sa parole, sans prière réelle, sauf pour bénir la soupe et amen. Quand je passe mes journées, quand je montre à mes enfants comment diriger leur vie, mais que je ne fais pas référence à Dieu, c'est quoi ça? C'est un athée. C'est un athée non théorique. Il pratique l'athéisme. Un athée officieux qui ne reconnaît pas la source de tout ce qu'on reçoit qui vient de notre grand Dieu, le Créateur rédempteur. Et David note à ce verset 1 que celui qui est insensé, il se corrompt. Ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, l'athée dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, puis ensuite, il agit selon le fait qu'il n'aura pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, David affirme pour une première fois, c'est notre thème pour ce matin, il n'en est aucun qui fasse le bien, ça c'est au verset 1. Et au verset 2, David décrit le Dieu 3 fois saint qui scrute du haut des cieux tous les hommes. Il a un regard sur le globe entier. Il voit au Cameroun, il voit en Suisse, il voit au Québec, il voit partout en Indonésie, dans les montagnes de Yunnan. Et qu'est-ce qu'il voit parmi les hommes et toutes les tribus de la terre? Qu'est-ce qu'il voit? L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3, notre verset thème, repris par Paul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu trouve qu'il n'y a personne depuis la chute. Personne. Mais je pensais qu'on était bon. Voyons donc, Jean-Jacques Rousseau, le fond de l'homme est bon. Qu'en est-il de l'Amazonien qui n'a pas entendu parler de Dieu? Ou l'inouï? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans aucune des tribus du monde, dans aucune famille de cette terre, ici, dans l'Occident, dans l'Orient, il n'y a pas d'homme, pas de femme, pas d'enfant qui fasse le bien, pas même un seul. Pourquoi le déluge? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grande destruction de l'humanité? Déjà, dans Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Essayez de faire un sérieux examen de vos pensées dans une journée. À chaque fois qu'on a été à l'écart, on est pas mal proche. Souvent. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous ramène. Mais il doit nous ramener souvent. Moi, je parlerai juste de moi, pas vous. Donc, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Genèse 6, 5 à 8 déclare que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et le verset 8, qu'on continue après une longue pause. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Ah, OK, il y a quelqu'un qui mérite alors. Il y a quelqu'un qui était bon, right? Noé. Non, il a trouvé grâce. Il a reçu grâce. Il a été gracié. Il était comme les autres. Nous sommes comme les autres. Mais Noé a trouvé grâce. Et moi, j'ai trouvé grâce le 16 avril 1956, en Suisse, juste avant de venir au Canada. Gloire à Dieu pour sa grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quelle est la réaction de Dieu lorsqu'il regarde Longueuil ou Montréal aujourd'hui? Même affaire. Personne qui fait le bien. Heureusement que Dieu a un plan de miséricorde et qu'il patiente en nous disant « Parle, Longueuillois, parle, Saint-Léonardien, parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Heureusement que Dieu a son élection. Heureusement que Dieu est prêt à ne pas détruire Sodome et Gomorre s'il trouve 10 personnes justes. Là, la négoce est forte, là. Il descend de 50 à 10, notre Abraham, avec Dieu. OK, s'il y en a 10, j'épargnerai les deux villes. Il n'y en a même pas 10. Pourquoi 10? Bien, 10, c'est le chiffre d'une synagogue dans le judaïsme. Quant à 10 familles, 10 personnes, 10 hommes avec leur famille, c'est une synagogue. Il y aurait un témoignage dans cette ville-là. Il n'y avait pas de témoignage. Il y avait Lot. Puis Lot, c'est pas mal le compromis, merci, le rétrograde. Et donc, le jugement de Dieu tombe. Qu'est-ce qu'on va faire à Longueuil et dans tous les arrondissements et dans tous les districts de Longueuil et de Montréal? Le Québec est encore une terre de mission. Nous avons besoin de parler, car il a un peuple nombreux dans toutes ces villes. Alors maintenant, psaume 14.3, David conclut sa description du Dieu qui cherche pour voir s'il y a un quelconque seul juste, et il donne le constat divin, le diagnostic terrible du verset 3. « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Quand Dieu voit ses créatures depuis la chute, il trouve des rebelles. Tous se sont détournés de lui. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils se détournent du seul vrai Dieu? Ils créent leur propre Dieu. Ils créent leurs propres idoles. As-tu des idoles dans ton cœur? Quelles sont tes idoles? Quelles sont mes idoles? On les connaît chacun pour soi, n'est-ce pas? Et nous avons besoin ce matin d'être des iconoclastes, des destructeurs de nos idoles pour revenir au seul vrai Dieu. Nous nous sommes détournés du seul vrai Dieu. Nous nous attachons à des idoles tous les jours. C'est une corruption. Le mot est fort. Le mot corruption dans ce sens-là, tous se sont égarés, on s'est détournés de Dieu, tous sont pervertis. Nous avons ici une corruption, comme on applique au mot de la viande avariée, une carcasse puante. Le mot est très fort. Et David inclut absolument tout le monde, incluant chacun de nous ce matin. Il va falloir attendre le psaume 32 et 51 pour que David s'inclue lui-même en disant « tous », c'est comme s'il disait « tous les autres ». Mais dans psaume 32 et 51, il s'inclut. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne l'ai pas caché. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Dans le mariage, le mot pardon, c'est le mot le plus valable. Et dans notre relation avec Dieu, le mot pardon est le plus important. Pardonne-moi, Seigneur. Il va falloir le dire beaucoup de fois dans une journée. Beaucoup de fois dans une vie. Pardon, Seigneur. Et il le dit un peu plus en détail dans psaume 51. Psaume de David, lorsque Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Oh, moi, je ne fais pas ça. Je respecte la femme de mon prochain. Le petit écran dans ton salon, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu penses? À quoi je pense quand on voit une personne qui est à notre goût? Ô Dieu, aie pitié de moi, dit David, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Ouais, mais Uri, puis la famille de Bathsheba, j'ai péché contre toi seul, ou en premier, primordialement. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je lance l'appel aux chantres parmi vous de mettre les psaumes en musique et de chanter ces psaumes-là. Ceux de David sont musicaux. Oui, David, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, lui s'est détourné, lui s'est corrompu, lui était impur, lui était inique. Et ça, c'est nous tous ici ce matin. Dieu nous le déclare par la bouche de son psalmiste. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et quand Dieu regarde et qu'il trouve que nul ne fait le bien, c'est parce qu'il n'y a personne. Nada, zilch, aucun. Comment est-ce qu'on dit en portugais « personne » Ningun? OK, il n'y a personne. Mais tu vas dire, je ne suis pas athée, je n'ai pas couru la femme de mon voisin, je n'ai pas tué son mari. Pourtant, quand Dieu nous voit, il voit notre cœur tourné vers les idoles, le cœur que Jésus a déclaré, « Celui qui se met en colère est l'égal du tueur. Celui qui a la convoitise pour sa voisine est aussi pire que l'adultère. » Et John Bradford, au 16e siècle, dit, « C'est là, sauf pour la grâce de Dieu, que je m'en allais en pointant des prisonniers, des bagnards. » Donc, pas même un seul. Ça, c'est une image terrible de notre race. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, aucun ne serait sauvé, aucun ne fait le bien. L'humanité est chutée, avilie, un désert sans oasis, dit Spurgeon, une nuit sans étoiles, du fumier sans pierres précieuses, un enfer sans fond. Terrible constat. Ça, c'est le psaume 3, le psaume 14, 3. Dans les versets 4 à 7, David essaye de convaincre les pécheurs de la folie et du danger de la voie du péché, et il décrit la joie de ceux qui invoquent l'Éternel. Donc, on laisse maintenant la perspective davidique, et pendant les quelques minutes qui nous restent, on veut voir comment Paul a repris ce verset-là et quelles nuances il y attache, comment il surbrille cette parole de l'Ancien Testament en le prenant dans son traité doctrinal aux Romains, dans Romains 3, 12 maintenant. Romains 3, 12, même verset. « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Car il débute cette citation en disant « Comme dit l'Écriture ». Les apôtres ont souvent pris l'Ancien Testament pour développer la Nouvelle Alliance. Donc, il est en train, dans ce traité théologique, de montrer la base que l'homme est perdu. L'homme est dans la noirceur, l'homme est mort dans ses péchés, l'homme est insensible à Dieu, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Paul a voulu que la bonne nouvelle qui a transformé sa vie soit annoncée à tous à Rome, puis voulait même aller jusqu'en Espagne. Il voulait que le monde entier, les Juifs et les non-Juifs, bref, toute l'humanité entende la bonne nouvelle, mais ça commence par la mauvaise. Et pendant 3 chapitres, Paul expose la condition humaine, son injustice, sa culpabilité, sa perdition légitime. Tous sont sous l'empire Ça, c'est un mot fort, hein? Sous l'empire du péché. Quand même qu'on voudrait en sortir, on est sous l'empire du péché. Que ce soit les païens, que ce soit l'ancien peuple de Dieu, les juifs, même les chrétiens élus de l'Église de Jésus-Christ ne sont pas meilleurs par nature, par naissance. Nous méritons la colère de Dieu comme les autres. Nous ne sommes pas meilleurs de tempérament, en intelligence ni en qualité extérieure. Nous ne sommes pas mieux qualifiés pour recevoir ou améliorer la grâce reçue que les autres. Comment Dieu voit-il l'humanité en dehors de la grâce qui est en Jésus-Christ? Pas différemment du temps de Paul que du temps de David. La culpabilité de l'humanité tout entière. Si on met Romains 3:12 dans son contexte du livre, nous savons que le livre est une théodicée. Vous connaissez un peu de grec? Théo, Dieu, dicée de dikaios, justification. Donc le livre est une justification de Dieu. Grosso modo, les trois premiers chapitres démontrent que Dieu est juste et que tous les hommes sont pécheurs. Grosso modo, chapitres 4 et 5 présentent le Dieu qui est juste tout en justifiant ce pécheur-là, les élus parmi eux. Les chapitres 6 à 8 exposent le Dieu qui est juste lorsqu'il accorde son esprit pour effectivement rendre juste ceux qu'il a justifiés par Jésus-Christ, par la foi en Christ, par la grâce. D'accord? Donc, il les déclare justes dans les chapitres 4 et 5 et il les rend justes dans les chapitres 6 à 8 par son esprit qui vient résider en nous. Et combien j'ai besoin de jouer le tag team avec le Saint-Esprit, parce que ça ne se fera pas tout seul par moi, ni tout seul par le Saint-Esprit, c'est un tag team. Si je veux avoir la victoire sur le péché, je dois relire Romains 6, 7 et 8 pour voir comment je travaille avec l'Esprit Saint pour chasser le péché de ma vie et devenir juste comme Dieu m'a déclaré en 1956. Les chapitres 9 à 11 justifient Dieu dans ses relations avec Israël et les nations. Et enfin, dans les chapitres 12 à 16, Paul présente la justice de Dieu en incorporant chaque chrétien dans une église. Gloire à Dieu pour votre présence ce matin. Vous devriez vous applaudir, mais attendez, on n'a pas beaucoup de secondes. Donc, une église, c'est la place où Dieu place ses chrétiens. Les enfants de Dieu qu'il justifie, qu'il rend juste, il veut que ça se fasse dans une communauté, ensemble, avec d'autres. Le Nouveau Testament ne connaît pas des chrétiens isolés, restent chez eux. Oh, on peut passer entre les gouttes peut-être, mais on ne croîtra pas, on ne va pas grandir. Et j'en ai rencontré cette semaine comme ça. Ils sont sauvés. Regarde, Lisa a besoin de se joindre à une église. Elle étudie l'Écriture toute seule. Priez que je puisse retourner la voir encore dans ma dernière semaine. Donc, nous voyons dans cette belle épître une théodicée. Et si l'épître est une théodicée, c'est comme si on était dans un tribunal. Théodicée, c'est comme une justification de quelqu'un. On est à la barre. Et qui est à la barre? Qui est l'homme à la barre? C'est toi, c'est moi, c'est toute l'humanité. Et nous voyons trois verdicts dans le contexte immédiat maintenant de ce verset. D'abord, l'homme est coupable par son esprit qui est souillé. Ça, c'est les versets 9 à 12. Et ce premier verdict déclare qu'il n'y a pas un seul humain qui soit intelligent. Il n'est pas juste parce que Dieu a confié aux Juifs la garde du texte sacré. Ils ne sont pas meilleurs. Parce qu'ils semblent avoir donné une grâce commune aux païens. Ils ne sont pas meilleurs. Nul ne cherche Dieu. Au contraire, on le nie, on ne lui donne pas l'honneur qui lui est dû. Deuxièmement, l'homme est coupable car son corps est souillé, pas juste son esprit. Et ça, c'est les versets 13 à 16. Très intéressant, si j'avais beaucoup plus de temps, on parlerait pourquoi c'est dans notre Bible. Parce qu'en fin de compte, Paul cite David à partir de la version 70 en grec. Les 70 hommes, les 70 hommes qui ont traduit la partie hébreu de l'Ancien Testament ou la version hébraïque de l'Ancien Testament en grec pour la nouvelle langue franche de l'époque. Dans cette version-là, c'est glissé les versets 13 à 18 de Romains 3 qui proviennent donc de la Septante. Paul cite la Septante, donc il reprend ces versets-là. Mais n'ayez crainte, ces versets se retrouvent aussi ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas une composition factice. mais on n'a pas plus de temps à passer sur cela. L'idée, c'est que dans ces versets, surtout, c'est le corps qui est mentionné, le gosier, la bouche, les pieds, les yeux, la langue, les lèvres. Le corps, lui aussi, est souillé. Ce n'est pas juste l'esprit. Notre corps fait la volonté de notre esprit dévoyé. Et il suffit de passer en revue nos actions, nos pensées, pour savoir que c'est vrai. Et finalement, dans les versets 17 et 18, l'homme est coupable car son âme est souillée. Il est accusé de ne pas poursuivre la paix et de ne pas avoir la crainte de Dieu. Tu dis, mais moi je crains Dieu. Mais à chaque fois qu'on a dérogé un tout petit peu de la volonté de Dieu, on ne craint pas Dieu. Nous sommes sous ces verdicts. Et le verdict final de Paul vient au verset 19, « Afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Et de nouveau, Paul enfonce le clou au verset 23, tellement bien connu, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce serait tentant à ce moment-là de dire, « Oh, mais le juge nous a déclarés coupables. Il nous laisse maintenant entrevoir la grâce. » Et ce serait agréable de sauter à la lueur d'espoir que Paul développe et qu'on peut être justifié devant Dieu. On aurait hâte que l'apôtre maintenant nous parle de la grâce de Dieu, du Fils Jésus-Christ qui sera puni à notre place pour assouvir la colère juste du Dieu trois fois saint. Après cette description si triste, ah, que ce serait rafraîchissant de goûter à la grâce d'un Dieu qui fait provision pour le pardon. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Cette puissance de Dieu qui peut nous transformer pour être des chrétiens. Est-ce qu'on a fini avec la mauvaise, là? Est-ce qu'on peut passer à Jean-Sébastien puis à Miguel pour la bonne nouvelle, s'il vous plaît? Pas si vite. Les réformateurs, et nous descendons de la réforme, ils ont fait de cette doctrine de la corruption totale la première pièce dans leur système doctrinal. Et nous ferions bien de le recevoir. En anglais, c'est « tulip ». T pour total depravity. On le traduit par corruption totale. Tulip, je l'ai traduit en français avec cerise. Cerise, c'est corruption totale, élection inconditionnelle, rédemption particulière, invitation irrésistible, sécurité éternelle et on rajoute évangélisation universelle. Pas le temps d'aller là-dedans, ce serait un autre sujet. Revenons à corruption totale, le premier, le C de cerise. Pourquoi qu'on dit qu'il y a une corruption totale de l'homme? Parce que Paul dit dans Romains 3, 12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, corruption totale? Et dans 4 minutes, je dois le décrire. C'est faisable. Attachez vos tuques, mettez vos ceintures. Mais je ne vais pas aller trop vite. Tous les aspects de la nature humaine sont touchés par le mal, par le péché. C'est ça que ça veut dire. Pas nécessairement que nous sommes fous, braques, écumants à la bouche et qu'on fait tout le mal qu'on pourrait faire. Mais que chaque partie de mon être est touchée par et entachée par le péché. D'abord, ma nature. Éphésiens 2, 3, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est toi, c'est moi. Deuxièmement, la compréhension, ce que je comprends dans la vie. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, dit Paul, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu peux jaser avec ton voisin de l'Évangile. Il entend tes mots. Il peut employer des mots. Il peut lire des versets. Il ne comprend pas. Il n'y a pas encore le module pour être aiguillé vers la compréhension. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. L'intelligence, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Paul dit, ils ont, parce que maintenant il a l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir une intelligence selon Dieu. Alors, nature, compréhension, intelligence, le cœur. Que dit la parole concernant notre cœur? Oh, laisse parler ton cœur, ça va aller bien. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dit Jérémie. C'est ça le cœur. Les pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'esprit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc, on pensait qu'on avait un esprit aiguisé, vif, vivant. Nous sommes morts. Nous sommes des cadavres ambulants. Nous n'avons pas une vie dans notre esprit, naturellement. Notre conscience, ah, moi j'ai de la conscience, je sais ce qui est bien, ce qui est mal. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Dernier, la volonté. Ah, moi j'ai de la volonté, moi je vais être capable, je vais pouvoir dire non. Tu vas voir, je vais commencer un nouveau programme, là. Je commence aujourd'hui. Puis si ce n'est pas aujourd'hui, je vais commencer demain. Tous les jours de ma vie, je peux commencer un nouveau programme. J'ai de la bonne volonté. Qu'en est-il de la volonté? Il est dit, vous étiez esclaves du péché. Romains 6, 20. Il est aussi dit, Tite 3, 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Asservis. On est esclaves. Nous ne sommes pas avec une volonté libre, pouvant dire oui et non. Nous sommes asservis au mal. On a une certaine jugeote. On est un petit peu comme des poissons dans un aquarium avec une certaine liberté. Et il me reste 60 secondes. Je termine. L'homme est perdu, aveugle, mort, insensible aux choses de Dieu. Il ne peut pas se sauver. Nul ne cherche Dieu. On a essayé de le prouver. La loi peut sauver personne. Les Écritures, toutes seules, ne peuvent sauver personne. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comment on sort du dilemme? C'est seulement par la révélation de Dieu. Ah, tu pensais que j'allais dire quelque chose que tu pouvais faire? Rien. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a que Dieu qui ressuscite un corps et une âme perdue. Il n'y a que Dieu qui vient chercher vraiment. Nous, nous ne cherchons pas, les textes l'ont dit. Dieu cherche. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier et tu peux parler. Annonce l'Évangile, incluant la perdition de l'homme et la corruption totale. Alors, Dieu peut travailler par son esprit. Amen. Prions. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui a compris aujourd'hui qu'il est perdu, P-E-R-D-U, mort, insensible aux choses de Dieu, et qui voudrait, par l'action de ton esprit, qui voudrait recevoir la solution à son problème, permet qu'il puisse lire le verset 24 après le verset 23 dans Romains 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ô Seigneur notre Dieu, sauve cette personne ce matin, homme, femme, enfant, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, permet qu'il le fasse dans les secondes prochaines. Et qu'avant de quitter cette salle, il puisse parler à Joël Neves ou à d'autres chrétiens autour de lui. Sauve ce matin, Seigneur Dieu, nous t'en prions pour le temps et pour l'éternité. Et donne-nous de réaliser combien nous étions loin et combien nous pouvons apprécier ton salut si merveilleux qui est en Jésus-Christ. Béni sois-tu de nous avoir sauvés d'une mort certaine, d'un enfer certain. Dans le beau et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.